Do it.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler du musée Territoire 14-18, juste après le générique. Do it. Pour m'accompagner, j'aurai une invitée, la coordinatrice du musée 14-18, musée de territoire, Nina Pollard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Graphite. On va parler un petit peu de ce musée, puisque c'est pas vraiment un musée, c'est plutôt... on va dire une succession de musées, un petit peu.
Alors oui, c'est on a une forme de musée assez originale. Le musée Territoire 14-18, en fait, c'est un musée à ciel ouvert. On peut aussi dire musée de plein air, musée hors les murs. Voilà, donc c'est en fait un territoire qui a pour objectif de valoriser le patrimoine matériel et immatériel hérité de la Grande Guerre. Et donc c'est un territoire qui se situe entre la Somme et le Chemin des Dames, aux portes de Rotonde.
Donc c'est la Somme, l'Aisne et l'Oise, en gros le grand territoire.
Alors en fait, il touche vraiment les départements de l'Oise et de l'Aisne.
Ok. Voilà. La ligne rouge est un peu le fil conducteur de ce territoire, c'est ça ?
Voilà, donc la colonne vertébrale du projet, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est en fait l'ancienne ligne de front qui a traversé ce territoire. Donc là, c'est la ligne de front qui s'est stabilisée entre 1914 et 1917. Donc en fait, l'idée, c'est d'encourager en fait, les visiteurs à emprunter cette ligne rouge. Et en fait, de découvrir tous les sites hérités de la Grande Guerre qui se situent autour de cette ancienne ligne de front. Donc on peut avoir voilà, des monuments aux morts à aller voir, des nécropoles, des musées en lien avec 14-18, des carrières où se sont abrités des soldats, mais aussi énormément de randonnées balisées sur la mémoire de ce premier conflit mondial.
Quels villages sont couverts ou quelles villes sont couvertes ?
Alors, c'est un territoire assez vaste. Hein. Si on prend du nord au sud, on va avoir... la ligne rouge va de Crapaud-Ménil jusqu'à Vic-sur-Aisne. Et voilà, le territoire, donc on peut le... Il s'étend vraiment de Crapaud-Ménil jusqu'à La Ferté-Milon, en passant par Noyon, Namsel, Rotonde, Pierrefonds et Villers-Cotterêts.
Il y a également Carlepont, Kutz, ce genre de choses ?
Oui.
Parce que c'était sur la ligne de front allemande, du coup, ces villages-là.
Exactement. Donc, on a tous les villages qui sont situés tout autour de la ligne de front, comme Kutz, Carlepont, Namsel, Lassigny, etc. Donc, c'est vraiment des villages où, par exemple, à Kutz et Carlepont, vous allez avoir une randonnée, le parcours des Zouaves, où vous allez pouvoir découvrir ces deux villages qui ont été très marqués par la Grande Guerre. Oui.
C'est un tout jeune musée, il me semble. Ça a combien de temps ? 5 ans ? 6 ans ? Même pas ?
Alors, le musée Territoire 14-18, oui, il est vraiment né de la période des commémorations. L'idée, c'était vraiment de profiter en fait des 5 années de commémoration pour lancer voilà ce musée à ciel ouvert. Donc on avait pensé à ce projet avant 2014, mais il a vraiment été connu et on a marqué son inauguration en 2014.
Le but, c'est de mutualiser un petit peu les moyens, d'avoir plein de petits endroits à droite à gauche et puis de mutualiser notamment votre personne par exemple en tant que coordinatrice.
Voilà, l'idée, en fait, c'est, puisque c'est un projet qui est porté par 5 communautés de communes, donc la communauté de communes du Pays des Sources, des Deux-Vallées, du Pays Noyonnais, des Lisières de l'Oise, donc qui sont situées dans l'Oise, et Rade-Saint-Valois dans l'Aisne. Donc l'idée, c'est de se mettre tous ensemble pour valoriser une histoire qui est commune à toutes ces communautés de communes, qui est l'histoire du premier conflit mondial. Donc, en se mettant tous ensemble, voilà, ça permet de valoriser un patrimoine commun, mais aussi voilà, de mutualiser les moyens humains et financiers et donc de proposer des projets de grande envergure en lien avec 14-18.
C'est quoi votre rôle du coup de coordinatrice? Vous êtes là pour parler avec les professionnels du tourisme, avec les visiteurs, avec qui exactement du coup vous coordonnez qui, quoi?
Alors, j'ai plusieurs missions qui sont assez vastes. Donc moi, je gère la structure, donc administrativement, financièrement.
Qui est basée à Tourotte.
Qui est basé, voilà, moi, mon poste est basé à Tourotte. Mais, voilà, moi, je me balade tout au long de la ligne de front au quotidien. Je vais voir tous les acteurs du musée territoire, toutes les communautés de communes, tous les sites 14-18, toutes les associations qui travaillent. Donc, voilà, j'ai un travail de bureau, donc pour la partie administrative et financière. Mais je me charge également beaucoup de la communication. Donc, c'est moi qui gère tous les réseaux sociaux, le site Internet. Et puis qui met en place toutes les brochures de communication sur le musée territoire 14-18. Et j'ai aussi ce rôle de faire connaître le musée territoire à l'échelle locale, régionale et nationale. C'est-à-dire voilà, qu'il faut que je suis en lien avec la mission centenaire, par exemple, pour leur faire part de toutes nos actions.
Donc, ce n'est pas vous qui occupez des événements vraiment sur les territoires, enfin sur l'équipement, en fait. Alors, chaque équipement gère ses propres événements, dont on parlera tout à l'heure.
Oui, alors en fait, le musée territoire, le but, c'est de travailler en fait en lien avec les offices de tourisme du territoire, donc l'office de tourisme de Pierrefonds-Lisière de l'Oise, du Pays Noyonnais en Vallée de l'Oise, Retz-en-Valois et l'office de tourisme de Compiègne, pour qu'en fait, ils portent le projet Musée Territoire, qui propose des visites guidées, des animations, etc. Et dans chaque communauté de communes, j'ai également des référents Musée Territoire qui sont responsables du service tourisme, en général. Et donc, c'est eux aussi, en fonction des projets qu'ils peuvent proposer, des animations qui portent voilà, le Musée Territoire et qui valorisent tous les sites. Donc, le musée territoire, c'est vraiment un réseau.
On va parler un petit peu justement de ce réseau. On va parler des musées. Il y a certains qu'on connaît. Le musée du Noyonnais, on le connaît bien. La cité Batelli. Il y en a d'autres qui sont un peu plus confidentiels pour le moment. Retombe, un espace découverte. On en parlait un petit peu au début de l'émission. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce musée à Retombe?
Alors,
parce que souvent, on connaît la clairière de l'armistice qui est entre Compiègne et Retombe. Mais du coup, il y a quoi dans ce musée exactement?
Alors, Retombe, il faut dire que donc c'est pas un musée, hein, c'est le centre un centre d'interprétation qui s'appelle l'espace découvert du musée territoire 14-18 qui est situé à Retombe. Et donc, il jouxte l'église de Retombe, qui est connue puisqu'elle a accueilli... c'est dans l'église de Retombe que Foch s'est recueilli la veille de l'armistice. Et c'est aussi la première église qui, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année, a sonné, a marqué l'armistice. Hein, et que ces cloches ont sonné tellement fort qu'elles ont même été fêlées. Donc, juste à côté de cette église...
C'est une vraie histoire, ça, ou c'est une légende urbaine?
Je pense que c'est une vraie histoire. Et donc, juste à côté de l'église, dans l'ancien presbytère, c'est là où on a mis en place le centre d'interprétation. Donc, en fait, c'est un espace... Vous n'allez pas trouver des collections muséographiques.
Ce n'est pas des objets, du coup.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un musée, puisque ce qui marque vraiment le musée, c'est d'avoir des collections patrimoniales. Là, l'idée, c'est d'avoir une scénographie moderne et de sensibiliser le visiteur à l'histoire de la Grande Guerre sur le territoire, donc tout ce qui s'est passé autour de la ligne de front, la vie dans les villages au quotidien, pour les civils. Donc, voilà, vous avez une première salle où, dans laquelle vous allez avoir les dates charnières, les épisodes qui ont marqué le territoire. Une deuxième salle, vous allez avoir une vidéo qui marque, où vous pourrez voir l'ensemble des sites 14-18 qui se situent sur l'ancienne ligne de front. Donc, c'est une vidéo scénarisée. Et une dernière salle avec beaucoup de documents manuscrits et iconographiques, des témoignages, où vous allez pouvoir voilà, découvrir l'histoire du conflit. Donc, c'est vraiment un lieu d'éveil à la Grande Guerre. Et en fait, il y a un jardin juste devant, le jardin du souvenir, où il y a des arbres chuchoteurs. Si vous vous promenez dans ce jardin qui est très agréable, c'est un véritable havre de paix, vous pourrez entendre des témoignages. Il y a également des d'anciens soldats. Il y a également des sculptures qui ont été reproduites, qui sont issues des carrières.
Des carrières de Tracy ou des carrières de où?
Alors, vous avez par exemple un cheval qui a été reproduit des carrières de Confrécourt.
D'accord. Là, c'est un petit peu la même scénographie qu'au musée des Bateliers, en fait. C'est ça, c'est des écrans télé et puis des casques sur lesquels on peut écouter.
Alors, il n'y a pas de casque, mais c'est la même idée. Voilà, on a vraiment envie d'attirer un public diversifié. Et l'idée maintenant, c'est aussi de répondre à la demande du jeune public qui est très, très axé sur
Nouvelles
technologies, le numérique. Donc, c'est aussi pour ça que le musée Territoire, on a beaucoup d'applications. Donc ça nous permet d'attirer tous les publics et je peux vous dire que les plus jeunes comme les plus grands sont très heureux de découvrir l'espace découvert. Donc il y a vraiment la porte d'entrée pour le musée Territoire 14-18. On vient ici pour avoir connaître les grandes dates et après on vous invite en fait à aller in situ dans les sites 14-18 pour vous imprégner un peu plus de cette histoire.
Donc là, ensuite, on va à la ligne de front, la butte des Zouaves, on va à Nampsel, on va à Tracy, on va à Bitry, je crois, si je dis pas de bêtises.
Alors voilà, vous pouvez...
Moulins-sous-Touvent.
On vous encourage, en fait, à aller voir tout ce qu'il y a tout au long de la ligne de front. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire dans l'ordre, mais est-ce que vous souhaitez... que je vous parle de quelques sites
on va en parler. Du coup, il faut être véhiculé, ou on peut le faire à pied tout ce... Parce que c'est quand même une très grande ligne de front. Est-ce qu'on peut y aller en vélo? Est-ce que du coup, c'est balisé?
Alors voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est bien sûr, vous pouvez la parcourir en voiture, mais on a aussi mis en place des parcours de randonnée que vous pouvez faire à pied, à cheval ou à vélo, et même des parcours de randonnée en voiture.
On va parler avant du château de Montgobert. Pareil, oui. Je connaissais pas du tout ce château de Montgobert. C'est quoi l'histoire de ce château?
Alors, le château de Montgobert, en fait, il est situé dans l'Aisne, dans une belle petite commune. Et en fait, il est connu parce que Joffre est passé au château de Montgobert. Et c'est un lieu qui en fait, c'est intéressant d'en parler parce qu'ils ont une salle toute nouvelle. Donc, c'est une salle où il y a une exposition permanente. 14-18, donc elle a ouvert il y a quelques semaines. Donc l'idée en fait c'est de découvrir depuis la fin du conflit, donc la reconstruction, on remonte le temps en fait, on remonte le temps pour arriver aux origines du conflit. Et donc vous avez une grande frise chronologique qui relate les épisodes charnières de la Grande Guerre et en même temps vous allez découvrir des faits qui sont propres à ce territoire là. Voilà, donc vous avez beaucoup de textes, mais aussi beaucoup d'iconographie. Et donc, c'est vraiment un lieu qu'on vous encourage à aller visiter parce que c'est aussi dans un très beau château qui a un très beau jardin dans lequel on peut se promener.
La tour d'observation du général Mangin?
Oui, alors ça, c'est une grande nouveauté. Donc, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, c'est la tour d'observation du général Mangin qui a été réhabilitée en 2017.
Donc ça, c'est à Villers-Cotterêts?
Voilà, c'est dans la forêt de Retz, juste à côté de Villers-Cotterêts. Donc cette tour, en fait, c'est du haut de cette tour que le général Mangin a lancé une contre-offensive le 18 juillet 1918 et qui a conduit ensuite, on dit que c'est le début de la fin de la guerre, puisque c'est, suite à cette offensive, il n'y a eu que des offensives qui ont mené à l'armistice, puisque les Allemands ont reculé de 8 km. Et donc voilà, ça a été un événement très marquant. Donc la tour, en fait, elle s'était effondrée en 1924 suite à une tempête. Et donc, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, on a réhabilité cette tour. Donc elle fait 25 mètres de haut. Il y a 8 niveaux et sur chaque niveau, vous avez un parcours scénographié. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire du conflit. Donc pourquoi, quel était le rôle des villages pendant la Première Guerre mondiale, à quoi a servi la tour. Mais la faune et la flore sont aussi des thématiques très importantes. Donc on va également découvrir qui vit dans le sol, qui a vécu, qui vit dans les arbres tout autour de la tour. Et j'en profite également pour dire que le 22 juillet, donc dimanche 22 juillet, on a l'inauguration officielle de la Tour Mangin, donc une grande fête qui va se dérouler dans le parc du château de Villers-Cotterêts. Donc il va y avoir plusieurs animations, donc ça va vraiment être un village avec plusieurs stands, des reconstitutions historiques, vous allez pouvoir faire des origamis, donc beaucoup d'ateliers pour les enfants, des caplas, etc. Il va y avoir un stand musée territoire, bien sûr. Il y aura un chemin de randonnée de 6 km avec un parcours pédagogique, des énigmes, etc. pour les familles, pour qu'elles puissent, en fait, depuis le parc du château de Villers-Cotterêts, aller jusqu'à la Tour Mangin, puisqu'elle se situe dans la forêt de Reste. Et quand vous allez arriver devant la Tour Mangin, il y aura de nombreuses animations. Et surtout, vous aurez la possibilité de monter ces 8 étages et d'avoir une vue magnifique sur le plateau du Soissonnet, donc le 22 juillet, de 10h à 18h.
Il y a également un spectacle de rapaces à 11h30 et à 15h30.
Exactement, merci.
Voilà. Et c'est gratuit, il faut aussi le préciser, donc c'est gratuit cette journée de 10h à 18h, donc la fête de la Tour Mangin à Villers-Cotterêts. C'est indiqué par les panneaux, c'est indiqué par quel type de panneaux, comment on retrouve cette tour, on la voit de loin ou...
Alors la tour, non, pas facile de la voir de loin parce que comme elle est vraiment dans la forêt de Retz, si vous circulez en avion ou quoi, là, vous allez pouvoir la voir.
Mais on ne déplace pas trop souvent en avion.
Il y a des panneaux de signalisation routière.
D'accord, voilà, et du coup, les panneaux lignes rouges, c'est aussi ces panneaux-là qui sont installés du coup, à Villers-Cotterêts ou pas du tout, ceux qu'on peut voir
Alors, oui, c'est vrai que le musée territoire 14-18, on a des panneaux de signalisation routière que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la ligne de front. Afin que vous puissiez savoir où se situent les sites 14-18. Donc voilà, ces panneaux vont jusqu'à Vic-sur-Aisne, mais en tout cas, la tour d'observation du général Mangin est bien indiquée sur la route.
Oui, c'est des panneaux rouges, encadrés rouges, avec marqué 14-18, musée de territoire. On continue un petit peu dans les musées. Bon, après, on connaît plutôt bien Clairière de l'Armistice. Vous participez également à c'est quoi l'animation ? Parce que la Clairière de l'Armistice a sa propre activité. C'est quoi le but aussi avec vous ?
Alors en fait, le musée de la Clairière de l'Armistice ne dépend pas du musée territoire 14-18, mais on travaille en collaboration. C'est-à-dire que Rotonde, par exemple, l'espace découvert de Rotonde se situe juste à côté. Donc on encourage les visiteurs qui viennent à l'espace découverte d'aller faire un tour à la Clairière de l'Armistice, etc. Donc et on se tient au courant au quotidien de nos actions, de nos projets, et donc on travaille en collaboration avec l'association, puisque c'est un musée qui est géré par une association, et avec l'Office de tourisme de Compiègne. Et puis, bien sûr, c'est très important pour nous de travailler main dans la main, puisque on est en plein cœur des commémorations, donc forcément, on aime se tenir au courant de nos actions respectives.
C'est aussi un aimant à touristes. Souvent, on apprend que l'armistice était signé à Rotonde. Bon, pour les Compiénois, c'était signé à Compiègne, mais en général, dans les livres d'histoire, c'est signé à Rotonde.
Et oui, beaucoup de touristes font l'erreur. Effectivement, on dit ils vont à Rotonde en cherchant la clairière. Alors, on leur dit bien, non, c'est en forêt de Compiègne, c'est sur le territoire compiénois. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de visiteurs à la clairière de l'armistice. Moi, quand j'y vais, j'entends souvent des gens qui me disent... On n'est pas forcément de passage sur le territoire de longue durée, mais on passait par là, il fallait qu'on passe. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'ils s'arrêtent à la clairière de l'armistice et donc ils vont connaître aussi le musée territoire 14-18 puisqu'on a nos brochures à l'entrée. Ils vont aussi s'intéresser aux autres sites 14-18 probablement. Donc
c'est un monument d'appel, ouais.
Oui, ça c'est sûr.
On parle des carrières, c'est un peu spécifique au front de l'Oise. Les carrières, donc il y a Machemont, il y a Confrécourt, la carrière de la Botte et les carrières de Tracy-le-Mont.
Voilà. Donc ça, ce sont des carrières en fait qu'on propose à la visite. Je vais peut-être d'abord vous parler par exemple des carrières de Montigny. Donc les carrières de Montigny, elles sont situées à Machemont. Ce sont de véritables archives à ciel ouvert. Ce sont des souterrains en fait qui ont servi dès le 18e et 19e siècle à l'extraction de la pierre. Et en fait, il y a plusieurs histoires qui se mêlent. Il y a cette histoire des carriers. Il y a l'histoire aussi de maisons troglodytes, puisque des gens y ont vécu. Et puis, l'histoire 14-18, qui se mêle aussi à ce site, puisque des régiments français se sont abrités dans les carrières de Montigny pendant la Grande Guerre, puisque la ligne de front se trouvait juste à côté. Donc, ça leur permettait d'être à l'abri, de pouvoir se reposer. Voilà, il y avait... Et dans ces carrières, ont été aussi installés, par exemple, un hôpital militaire. Donc, pour les blessés, ça les permettait également d'être à l'abri. Donc, si vous vous promenez dans les carrières de Montigny, vous allez pouvoir découvrir d'immenses salles magnifiques avec des sculptures, des graffitis qui ont été laissés par les soldats. Donc, ces graffitis, c'était pour, soit pour combler leur ennui, soit pour vraiment laisser une trace. Et donc la réhabilitation de ces carrières, on doit vraiment au travail de l'association La Mâche Montoise, qui propose régulièrement des visites guidées. Et grâce au travail de La Mâche Montoise et du soutien de la communauté de communes des Deux-Vallées, on a pu retrouver par exemple les traces de deux soldats. On a Marius Corpé, par exemple, qui était un artiste. On a retrouvé ses sculptures, donc par exemple le lion, un lion avec une crinière flamboyante qui a ses grosses pattes sur le monstre allemand. Donc on reconnaît que c'est le monstre allemand puisqu'il a un petit casque à pointe. Il représente en fait le Kaiser. Hein. On a également une Athéna niquée qui représente la victoire avec un poilu qui est agenouillé et donc qui tend la main vers cette Athéna pour qu'elle lui apporte la victoire. Donc voilà, c'est des sculptures qui perdurent dans ces carrières et on a pu retrouver la trace de soldats. Je parlerai également de Léopold Maréchal. Léopold Maréchal, en fait, c'est un soldat qui a été également dans les carrières de Montigny. Et c'est très intéressant, un universitaire américain, John Anzalone, a retrouvé son journal de guerre. Donc, en fait, on peut lire son journal de guerre et qui est illustré. Donc, on a vraiment la vie au front au quotidien et notamment dans la carrière de Montigny. Et la communauté de communes des Deux-Vallées a fait un facsimilé de ce journal de guerre. Donc, on peut l'acheter et le lire. Et c'est vraiment...
Au fur et à mesure de la balade.
C'est vraiment un témoignage intéressant, ouais.
On passe une autre carrière, les carrières de... Bah, les celles que vous voulez. Carrière de Confrécourt.
Allez, carrière de Confrécourt. Donc les carrières de Confrécourt, elles se situent près de Vingré, donc une très jolie petite commune tristement célèbre, puisqu'il y a eu 6 soldats fusillés pour l'exemple le 4 décembre 1914. Donc juste, je vous encourage, si vous allez à Vingré, donc il faut aller voir hein, ce monument aux morts. Qui rend hommage aux fusillés de Vingré. Il y a une petite randonnée à faire et on peut également télécharger une application Fusillés et Mutins 14-18. Et un peu plus haut, vous avez, donc près du monument La Croix Brisée, vous avez l'entrée des carrières de Confrécourt. Donc là, c'est l'association Soissonnet 14-18. Hein, grâce à cette association, qu'on a vraiment eu une réhabilitation du site et qui se charge... des visites guidées en collaboration avec l'Office de tourisme Red Saint-Valois. Donc vous entrez, donc pareil, ces carrières se situaient juste à proximité du front. Donc ça permettait aux soldats de pouvoir s'abriter. Et donc vous pouvez visiter cette carrière, voir de magnifiques blasons qui ont été sculptés à même la pierre. Et il y a vraiment une sculpture, un lieu au sein de la carrière qui est vraiment poignant. Vous allez tout au fond de la carrière, il y a une chapelle. Une chapelle qui a été sculptée dans la roche et on voit un escalier donc juste à côté, donc voilà, c'était un lieu où on imagine que les soldats priaient juste avant de prendre l'escalier et monter pour aller combattre, donc voilà pour la carrière de Confrécourt.
Là, c'est du côté de Villers-Cotterêts également,
entre voilà, Soissons et Villers. Ça c'est dans l'Aisne, ouais. Donc c'est plus du côté de Vic. Vingré, ouais.
Carrière de la botte. Alors là, c'est pas une carrière habituelle, puisque c'est vraiment des souterrains qui sont creusés.
Voilà, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est du côté allemand. Donc là, on n'est pas dans une carrière de pierre, on est vraiment dans un souterrain.
Donc là, c'était creusé pour l'occasion, quoi. C'est pas une réutilisation de quelque chose déjà existant.
Exactement, voilà. C'est les Allemands, en fait, qui, dès 1915, ont commencé à creuser des souterrains. Donc, vous pouvez les visiter, hein, grâce à une association, les souterrains 14-18 de la Carmois, qui propose également des visites guidées. Et donc, vous pouvez descendre dans ces souterrains. Il y avait quelques pièces aménagées en chambre, hein, pour que les officiers puissent dormir. Et ça permettait vraiment aux soldats allemands, en fait, de rejoindre les premières lignes en étant cachés, hein, en étant couverts et de ne pas risquer de traverser le front et de se faire bombarder par l'artillerie française.
On passe à Tracy-le-Mont ?
Voilà, et pour finir, on a la maison du garde à Tracy-le-Mont. Donc c'est une belle carrière, plus petite carrière à ciel ouvert, que l'on peut visiter en appelant l'office de tourisme de Pierrefonds Lisière de l'Oise. Donc c'est une carrière que l'on peut visiter dans le cadre d'une randonnée qui se fait à Tracy-le-Mont, une randonnée assez facile avec beaucoup de panneaux d'interprétation, des silhouettes de poilus qui vous guideront tout au long de votre promenade. Vous allez pouvoir trouver un ancien lavoir, l'infirmerie La Pensée, et donc on termine par la carrière de la maison du garde à Tracy-le-Mont, où pareil, vous allez pouvoir retrouver des sculptures, des graffitis, et notamment de régiments de zouaves.
Tous ces lieux ont été préservés il y a assez peu de temps, puisque quand j'étais encore très jeune, on se baladait dans les carrières de Tracy-le-Mont. C'était quoi l'intérêt ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça appartient à des privés ? Comment ils ont décelé, en fait, l'intérêt historique de ces lieux qui auraient pu être réutilisés, quand ils ont été utilisés pour mettre des engins agricoles ou ce genre de choses ? Ou à des jeunes enfants d'aller jouer et de faire leur première bêtise.
Bah, je pense que peut-être comme vous, vous êtes sensible à l'histoire du conflit sur votre territoire. Vous êtes attaché au territoire, au patrimoine. Et donc, je pense que toutes ces personnes qui ont des terrains sur lesquels se trouvent ces carrières sont vraiment sensibilisées et attachées à l'histoire de leur territoire. Donc ont tenu effectivement à ce que ce soit préservé. Et donc, préserver, c'est aussi justement faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de visiteurs, qu'il n'y ait pas trop d'enfants justement qui viennent...
qui refont des graffitis par-dessus les graffitis.
Exactement. Donc voilà, c'est pareil, c'est un dialogue qui se passe entre les privés, les communes, les communautés de communes, les sociétés historiques, les associations du territoire, et puis en collaboration aussi avec des scientifiques.
C'est beaucoup d'acteurs en fait là.
Voilà, c'est de toute façon c'est l'idée du musée territoire, hein. C'est le dialogue entre plusieurs acteurs. Voilà, c'est de se mettre tous ensemble et d'essayer de trouver une solution pour que ce soit à la fois préservé, mais et surtout que ce soit valorisé, que l'histoire se transmette au grand public. Et donc de permettre à ces sites d'être ouverts au grand public, mais voilà, de manière assez limitée.
Il y a encore des choses à découvrir. Aujourd'hui, les archéologues se penchent sur justement 14-18, parfois sur les poubelles des tranchées, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu des recherches entre guillemets archéologiques qui ont été faites sur ces carrières, par exemple ? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourra découvrir ?
Alors oui, il y a énormément de choses à découvrir encore. On voit par exemple les paysans de notre territoire qui trouvent dans leurs champs tous les jours des vestiges de la Grande Guerre. Et les archéologues... alors, la recherche en archéologie, ça fait longtemps qu'elle dure, hein, sur l'histoire de la Grande Guerre. Mais c'est vrai que le centenaire a permis d'approfondir ces recherches. Je pense notamment à Gilles Prilot, qui est l'archéologue dont on entend beaucoup parler dans les Hauts-de-France, qui fait tout un travail au sein des carrières de recherche. Voilà, il numérise avec une équipe l'ensemble des graffitis et des traces laissées par les soldats pour permettre, voilà, vraiment de préserver ces œuvres et surtout faciliter en fait la recherche scientifique, parce que c'est assez compliqué en fait. Effectivement, faut aller sur site, il y a certaines carrières qui sont pas du tout accessibles au public, qui sont très dangereuses. Donc là, le fait de vraiment d'avoir les nouvelles technologies avec nous, de faire des plans 3D numériques, de numériser, ça va permettre d'avoir tout ça peut-être sur une base de données sur un ordinateur à disposition du grand public et d'approfondir la recherche. Et je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Oui.
Parce que là, on parle des graffitis dans la pierre, mais il y a également des choses qui sont écrites au crayon à papier, enfin au crayon de mine, quoi, en gros.
Oui, il y a même des dessins qui ont été faits à la bougie.
Ouais, bougie, peinture.
Voilà, donc, notamment à la carrière de la botte. Donc voilà, effectivement.
C'est des choses qu'il faut préserver par rapport au ravage du temps. Quoi.
Exactement, c'est des sculptures qui, malheureusement, au fil du temps, voilà, elles subissent un peu parce qu'elles sont souvent à ciel ouvert, donc voilà, elles subissent
les attaques du temps. Ouais,
ouais, voilà. Donc c'est maintenant
en plus
ou jamais,
c'est humide,
hein.
C'est humide dans les carrières en général. Il
Exactement.
Fait plutôt frais. Là, c'est des visites qui se font à la lampe frontale ou c'est électrifié dans les carrières.
Alors, en fait, il y a certains endroits où il y a la lumière, puisque c'est quand même des visites qui sont bien encadrées. On a des casques hein, obligatoires, de la lumière, etc. Mais vous verrez toujours le guide avec une lampe de poche, parce que, tout simplement, quand on est visiteur et qu'on ne connaît pas bien le site, on ne sait pas forcément où se trouvent les...
pièges.
Les graffitis, etc.
je pensais plus au trou qu'il y avait dans le sol, ou ce genre de choses.
Ça peut être aussi ça, mais il y a des graffitis qui sont bien cachés. Donc, voilà, quand on a une bonne lampe de poche, ça nous permet, voilà, à 10 mètres de haut, de montrer...
Pointer, ouais.
Voilà.
C'est disponible pour les gens qui sont en fauteuil roulant, ce genre de choses, ou pas du tout, c'est compliqué, si on a mobilité réduite?
Alors, les carrières de la botte, par exemple, c'est un site qui est difficile d'accès pour les publics d'y empêcher. Mais par exemple, les carrières de Montigny, vous pouvez aller dans la première partie de la carrière avec un fauteuil roulant, c'est possible.
Tourists in Verona, I just want to love you. could smell of sex good like burning wood. The way we let lay clean. Two to thirsty girls from home to sea. Who left a note on the king.
Girls from a pool say hi. The roads at 5 feet per year along England's east coastline. Was this your first time? Love is just a button we press.
Coordinatrice du musée Territoire 14-18, au micro de Brian.
On va parler ensuite des villages et des villes qui sont couvertes. Il y a toutes les informations, si vous prenez en cours de route, sur le site musée-territoire-1418.fr. On mettra ça sur la page Facebook de la radio. On parle un petit peu de, par exemple, Autrèche, qui est du côté d'Attichy.
Oui. Alors oui, Autrèche qui a été très marquée par la Grande Guerre. Et il fait, en fait, Autrèche, tout comme ces petits villages autour d'Attichy, Namsel, ont vraiment été voilà, des petites communes qui ont vécu les bombardements au quotidien. Donc c'est des villages qui ont été complètement détruits par la Grande Guerre et qui ont été très marqués. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un parcours de randonnée balisée à Autrèche. Donc c'est un parcours de 6 km qui vous permet de retourner sur les pas du 35e régiment d'infanterie qui a été engagé dans les combats de septembre 14. Et ce parcours vous permettra vraiment de découvrir la vie quotidienne à Autrèche pendant l'occupation allemande.
Là, le village a été détruit à 95%, c'est quand même assez important sur un village. Ça a été reconstruit ensuite par les pierres qui étaient des carrières ou c'est pas du tout?
Oui, alors ça, je pourrais pas vous dire en détail, mais c'est sûr que les carrières de pierre ont servi à la reconstruction, notamment sur place, donc pour les villages environnants. Mais on dit aussi, par exemple, que la pierre des carrières de Montigny ont permis aussi la reconstruction de Paris.
On passe à Carlepont et Kutz. Alors, on connaît souvent la butte aux oies, puisqu'il y a eu un projet d'enfouissement des déchets. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais les communes de Tracy, d'Olencourt, Carlepont s'étaient un petit peu mobilisées pour empêcher cette création d'une nouvelle décharge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans cette butte aux oies?
Alors, la butte des oies. La butte des oies, donc, c'est un haut lieu de la mémoire qui est situé, voilà, en fait, sur la commune de Moulins-sous-Touvent, mais non loin de Kutz, c'est Carlepont. Donc en fait c'est une colline qui a une petite bosse comme un champignon. Elle est connue parce qu'on dit en fait qu'en 1915 il y a eu une bombe allemande et que des soldats ont été ensevelis vivants voilà, sous cette butte. Bon, en fait ce qui est sûr c'est qu'en tout cas on sait que ça a été un endroit qui a été très marqué par la présence de zouaves. Et donc, c'est un lieu qui leur rend hommage. Et juste à côté de la butte des Oies, vous avez le jardin national du souvenir à la butte des Oies. Et c'est vraiment un lieu où on va rendre hommage en fait, à ce corps d'armée qui a été l'un des plus décorés dans l'armée française, dans tous les combats en tout cas. Et donc on va leur rendre hommage, mais pas seulement sur 14-18, mais dans toutes les batailles dans lesquelles ils ont été engagés tout au long de l'histoire.
Là, c'est des soldats nord-africains, en général, d'Afrique du Nord. Également, on les retrouve également à Tracy aussi, dans les carrières de Tracy. C'est également des zouaves qui étaient présents dans cette carrière.
Oui, alors c'est la particularité aussi du territoire. C'est qu'on a beaucoup de régiments de zouaves qui se sont illustrés dans les combats de notre territoire, notamment pendant la bataille de Canevières. Donc voilà, on connaît mal hein, l'histoire de ces soldats qui venaient des colonies d'Afrique et qui sont arrivés ici sur le territoire qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et il faut savoir que c'était souvent des soldats qu'on mettait en première ligne. Et qui n'avait peur de rien, mais surtout qu'on a forcé à être en première ligne. Et je vous encourage à télécharger l'application Le Parcours des Zouaves. Il y a une belle application qui a été Musée Territoire 14-18, qui a été créée par la communauté de communes du Pays Noyonnais, où justement vous allez être dans la peau d'un zouave et connaître un peu le quotidien et d'un soldat zouave pendant la Grande Guerre.
On continue la visite avec Coeuvres-et-Valserie, c'est ça le nom du village ?
Coeuvres-et-Valserie, oui, alors Coeuvres-et-Valserie qui est situé dans l'Aisne.
En fait c'est marrant, c'est que tous les villages qu'on ne connaît pas, c'est les villages de l'Aisne, pourtant on est quand même à la frontière de l'Aisne, on n'est pas loin.
Bah oui, et puis j'espère que grâce au musée territoire, ça va un peu renforcer le dialogue entre l'Oise et l'Aisne, parce qu'on est vraiment juste à côté.
Là c'est entre Soissons et Cuise-la-Motte quoi.
Voilà, c'est ça, donc Coeuvres-et-Valserie, donc on vous encourage en fait à découvrir l'histoire de cette petite commune grâce à un parcours de randonnée, alors cette fois-ci à faire à vélo. Donc c'est une randonnée de 22,5 km, donc à la découverte de paysages et des monuments issus du patrimoine local du Soissonnais. Et puisque c'est vraiment un territoire qui a été plongé au cœur des combats pendant 4 ans. Voilà, donc en tout cas, c'est connu, Coeuvres-et-Valserie est connu pour les chars de l'offensive de juin 18, puisque le 27 mai 1918, les Allemands s'élancent à l'assaut du chemin des Dames et atteignent donc le même jour la vallée de l'Aisne. Et donc l'armée française décide d'engager pour la première fois, et c'est vraiment un épisode assez charnière dans la Grande Guerre, un char d'assaut fabriqué par Renault, le FT-17.
Donc voilà, c'est les premiers chars qui arrivent dans les conflits.
Et c'est vrai que Coeuvres-et-Valserie, on pense aux chars, mais on pense également aux chars de la bataille du Mât. Hein. C'est là où Mangin a organisé une contre-offensive également pour stopper l'avancée allemande qui voulait stopper le saillant français qui est situé dans le Noyonnais. Donc là pareil, les chars de la bataille du Mât ont été engagés sur ce territoire, et ça a vraiment stoppé l'offensive allemande, et ils ont joué un grand rôle dans la Grande Guerre.
Crapaud-Ménil, le bois des loges.
Crapaud-Ménil, le bois des loges, oui. Alors là, on est vraiment tout au bout du musée territoire 14-18, donc tout au nord. Hein. Donc là, on vous propose de parcourir ce territoire, donc autour du village de Crapaud-Ménil, de faire une petite randonnée de 6 km.
C'est déjà la Somme ou pas encore ?
Non, pas encore.
Pas encore.
Ouais,
on est tout proche. Ouais.
On est tout proche, voilà. Là, en fait, on vous propose vraiment de faire une petite randonnée qui vous permettra d'aller sur les traces des combattants français et allemands qui se sont fait face dans la guerre de position entre Crapaud-Ménil et Cagny-sur-Mât de 14 à 1917.
Là, c'est direction Roye, en gros.
Exactement.
Sur les villages, toujours les villages de 14-18, le Villers-Cotterêts, du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur de la ville de Villers-Cotterêts ?
Alors, Villers-Cotterêts, ça va être un peu comme Noyon, c'est-à-dire que c'est des villes d'arrière-front. C'est des villes, en fait, qui subissent le quotidien des villes d'arrière-front pendant la Grande Guerre, donc... qui subissent des bombardements, qui voient les troupes s'arrêter dans leur ville et repartir au combat. Okay. C'est des villes où il y a des hôpitaux militaires.
L'occupation également, c'est vrai qu'on parle souvent de l'occupation allemande de la Seconde Guerre, mais il y a eu également une occupation allemande pour la Première Guerre, à Noyon par exemple.
Oui, alors là, il faut forcément parler de Noyon. Noyon, c'est une ville qui a été bombardée à 80%, qui a été vraiment marquée par l'occupation allemande. C'est vrai que c'est une ville qui a complètement été détruite et qui, sa reconstruction a commencé que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle a été très connue, cette ville, parce que le 1er août, c'était Clémenceau qui avait écrit. Et pendant ce temps-là, les Allemands sont toujours à Noyon. Donc, il avait fait connaître le quotidien de Noyon, donc petite ville qui subit l'occupation allemande. Et en fait, Noyon est devenue une ville symbolique, en fait, aux yeux de la France. Et de nombreuses personnalités politiques, après, sont venues sur place. Pour se rendre compte, puisque Noyon, en fait, en 17, a été libéré une première fois avec le repli stratégique des Allemands, puis réoccupé en 18. Donc c'est vrai qu'en 17, on a eu l'arrivée de beaucoup de personnalités qui sont venues voir l'état de cette ville complètement détruite.
Là, sur l'ensemble des musées du territoire, est-ce qu'on retrouve des choses sur les habitants? Parce qu'on a parlé beaucoup des militaires, des compagnies, mais est-ce qu'il y a des choses sur la vie des habitants au quotidien? Comment ça se déroulait dans les villages? Par exemple, entre Trasilval et Carlepont, c'était la ligne de front. À côté, c'était les Allemands, à l'autre côté, c'était les Français. Est-ce qu'il y a ce volet-là?
Alors, c'est un peu l'idée du musée territoire, hein. C'est vraiment de rendre compte et de valoriser la petite histoire dans la Grande Guerre, et donc de connaître la vie des civils dans ces villages pendant 14-18. Donc, si vous faites un peu donc toutes ces randonnées dont je parle, qui sont d'ailleurs rassemblées dans un livret qui s'appelle 21 balades, donc toutes ces randonnées sur lesquelles vous allez trouver des parcours, enfin des panneaux d'interprétation, vous allez retrouver des témoignages, voilà, de civils qui ont vécu. Les combats de 14-18, enfin le quotidien de 14-18. Et l'idée, notamment notre objectif au Musée Territoire, voilà, c'est aussi de valoriser le patrimoine immatériel. Et je pense notamment aux événements qu'on organise. L'idée, c'est aussi de connaître donc ces témoignages, ces histoires des populations qui ont vécu. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup à la rencontre aussi des populations. On l'a fait notamment beaucoup dans le Noyonnais, pour que, en fait, les habitants nous racontent leur histoire, l'histoire de leurs grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu 14-18 dans ces petites communes. Et aussi, qu'est-ce que ça signifie pour les générations actuelles 14-18? Et qu'est-ce que pour eux qu'est-ce que ça leur signifie?
Parce que c'est lointain, là, quand même. Là, c'est quasiment 100 ans. Enfin, on arrive à 100 ans pour la signature. C'est quand même assez vieux. 100 ans, surtout à notre échelle aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Les téléphones portables, la télé, Internet.
Oui, c'est vrai que 100 ans, c'est loin et c'est pas loin en même temps. Hein.
Surtout que les photos étaient en noir et blanc. Du coup, quand on les regarde, on a toujours l'impression que c'est encore beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Mais est-ce que du coup, il y a vraiment un intérêt aujourd'hui d'apprendre ça aux jeunes générations? Alors, en dehors du devoir de mémoire?
Voilà, il y a le devoir de mémoire. Hein. L'idée, c'est vraiment de transmettre l'histoire du conflit. Parce que, comme je le disais, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Hein. On est tous liés, on est à 14-18 dans nos familles. On a tous un membre de notre famille qui a été soit sur le front ou soit qui a été touché au quotidien. Donc, c'est pas si lointain et il faut vraiment en parler. Et d'ailleurs, pas s'arrêter après le centenaire. Au contraire, le centenaire a remis, ça nous a permis de reparler de cette histoire, mais il faut vraiment qu'on continue à en parler. Et en ce qui concerne les jeunes générations, je peux comprendre que c'est pas un pan de l'histoire qui est facile à aborder. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'adapter aussi au jeune public. Et c'est ce que fait le Musée Territoire, par exemple. On a créé 5 applications. Donc vous avez le parcours des oies, Noyon pendant la Grande Guerre, sur les pas d'Anne Morgan. Vous pouvez aussi découvrir La Ligne Rouge avec Augustin Berger. Vous pouvez télécharger une application sur les fusillés, les mutins, 14-18. Donc là, voilà, comme on le disait tout à l'heure, on utilise la technologie pour approcher les jeunes générations. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est au niveau des thématiques. Qu'on traite via 14-18. L'année dernière, on a fait un grand événement sur la thématique du sport. Cet événement, ça s'appelait 14-18, joue là comme un poilu. Le sport, un héritage inattendu de la Première Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit clin d'œil.
Le football.
Joue là comme Beckham, voilà. Là, c'était joue là comme un poilu, puisqu'il faut savoir que les soldats, pendant la Grande Guerre, ont fait beaucoup de sport. Puisque quand ils s'ennuyaient... ils aimaient bien taper dans le ballon, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de soldats qui ne connaissaient pas du tout le sport, en fait. Et comme là, pour le coup, toutes les catégories sociales étaient mélangées, et ceux qui faisaient du rugby ou du foot, qui avaient l'habitude de le faire dans leur quotidien, qui avaient la chance de pouvoir le faire, ont appris aux autres les règles du jeu. Et puis, il y avait aussi... En côtoyant les Anglais, les Néo-Zélandais, etc., ils ont pu apprendre à faire du rugby. La Coupe de France de foot est née en 1917, par exemple. C'est aussi la première année où on a le premier match de football féminin. Donc, nous, on s'est dit que c'était une thématique vraiment intéressante et qui pouvait parler aux jeunes. Et c'est pour ça qu'on a fait 3 jours d'événementiel autour de la place du sport pendant la Grande Guerre. Et pendant toute une journée, on a fait venir des collégiens, des collégiens qui venaient de l'Oise et de l'Aisne, qui se sont affrontés autour de sports qui ont été joués pendant la Grande Guerre.
On continue la visite avec le village de l'Atoll.
Alors l'Atoll, comme je disais tout à l'heure, c'est un village en fait qui est connu par rapport à la bataille du Mât. Puisqu'au début du mois de juin 1918, à la suite des offensives allemandes du printemps, les lignes françaises forment dans l'Oise un saillant qui menace vraiment les positions ennemies. Et donc, le 9 juin 18, c'est là où les divisions allemandes s'élancent sur le front. Le 11 juin, c'est la fameuse offensive de Mangin qui contre-attaque grâce aux chars de la bataille du Mât. Moi, je vous encourage, si vous allez à l'Atoll, il faut absolument aller visiter la maison d'accueil du circuit des chars qui se situe pas très loin à Courcelles-et-Payelles. Donc, c'est une association en fait qui valorise vraiment cet événement majeur de l'histoire de la Grande Guerre.
Donc là, c'est du côté de Rosson-sur-Mâ.
Voilà, c'est plus... c'est bien...
Bien au-dessus, vers Tricot, direction Tricot.
Tricot à peu près.
Ouais. C'est pour sur la route.
Oui, alors c'est vraiment en plus... On est à l'ouest de Rosson-sur-Mâ, en fait. C'est
absolument.
Ça, ouais.
On continue avec Noyon, on en a parlé un petit peu. On peut parler de Plessier-de-Roi.
Alors, Plessier-de-Roi, oui. Alors
c'est la butte du Plémont.
Voilà, la butte du Plémont, en fait, qui a été connue, est particulièrement connue parce qu'il y a eu de très violents combats qui se sont déroulés sur place en 1918.
Donc là, c'est entre Rosson et Noyon, du coup, maintenant.
Voilà,
pour resituer.
Pour resituer, c'est vrai qu'on a un interhistoire assez vaste, donc c'est bien, Nicolas, que tu rappelles où on se trouve. Et donc voilà, les troupes allemandes dominent la butte du Plémont. Et donc, il y a eu d'âpres combats entre les Français et les Allemands sur place. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit parcours d'interprétation au sein du village de Plessier-de-Roi qui va nous permettre de découvrir cette histoire. Et vous allez notamment pouvoir voir le château Renaissance qui était complètement détruit par le conflit. Et c'est bien qu'on parle de Plessier-de-Roi puisqu'on a... Donc, tout à l'heure, on a parlé du 22 juillet de la Tour Mangin, donc il y a un événement Musée Territoire 14-18. Le 8 septembre, on a un autre événement Musée Territoire 14-18 qui va se passer à Plessier-de-Roi. Donc c'est un son et lumière qui s'intitule Les Sacrifiés de l'ombre à la lumière. C'est un son et lumière qui commence à 22h, mais vous avez différentes animations, notamment musicales, il y aura une restauration sur place, etc. à partir de 19h. Et donc, ce son et lumière, qui a été vraiment créé par les habitants de la région. On a jusqu'à une centaine de figurants qui seront sur place. C'est un son et lumière qui a pour objectif, en fait, d'évoquer les épisodes charnières de la Grande Guerre. et de marquer la libération de l'Oise, qui est vraiment qui est le premier département à avoir été libéré. Et c'est un événement voilà qui se terminera par un feu d'artifice. L'entrée est libre également.
On retrouve les informations soit sur le programme, il est disponible sur le site de Pays des Sources, c'est ça, ou sinon directement sur votre site.
Exactement, voilà. Également.
On continue encore notre périple direction Thiécourt.
Oui, alors Thiécourt, donc là on est pas très loin, on est toujours sur la communauté de communes du Pays des Sources. Donc Thiécourt, c'est un petit village qui se situe dans le massif de la petite Suisse Picarde, comme on dit. Vous allez avoir une très belle randonnée à faire, soit à pied, soit à vélo. Donc c'est une randonnée de 8,5 km. Qui va vous permettre notamment, qui passe par la carrière de la Botte, donc la carrière dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a un site intéressant également à aller voir, c'est la nécropole de Thiécourt. La nécropole de Thiécourt, donc, qui a été établie en 1920 et qui a la spécificité en fait, d'avoir été une fosse commune mixte à l'origine, donc allemande et française. Et donc, on a voulu garder en fait cette particularité. Et donc, il y a vraiment la nécropole française qui jouxte le cimetière allemand.
Donc, ça aussi, ça c'est visitable, les deux. Voilà. On continue avec la ville de Tourotte, parcours de Saint-Gobain.
Oui, alors Tourotte, on se dit, Tourotte, Grande Guerre, on ne voit pas forcément le lien. Donc Tourotte, en fait, c'est une ville qui, en fait, au lendemain de la Grande Guerre, donc le groupe Saint-Gobain cherche en fait un site pour installer sa grosse usine. Et donc, en fait, elle choisit la commune, puisque c'était tout petit, Tourotte, à l'origine. Tourotte, qui était très bien placée, puisque... on a les voies d'eau, on a la route à côté, etc. Donc voilà, l'entreprise Saint-Gobain jette son dévolu sur Tourotte et crée son usine sur place. Donc là, on valorise vraiment plus la thématique de la reconstruction et du patrimoine industriel. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de relier avec d'autres thématiques. Et Tourotte est intimement liée finalement à la Première Guerre mondiale.
Il y a un autre exemple, par exemple, à Carlepont. Le château de Carlepont a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et avec les indemnités de fin de guerre pour la reconstruction, en fait, finalement, il a construit une cité, le propriétaire a construit une cité ouvrière à Tourotte. Donc c'est assez drôle de passer d'un château à une cité ouvrière. Donc aujourd'hui, le château de Carlepont est toujours détruit, il est toujours en ruine. Mais donc voilà, il y a une cité qui a été créée grâce à ces indemnités de guerre. On va passer après Tourotte, du coup, Tracy-le-Monde, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut terminer avec Vic-sur-Aisne.
Oui, alors...
Donc là, on est dans l'Aisne, à la fin du...
Voilà,
donc début là... du département et la fin pour l'Oise.
C'est ça, donc là, on suit la ligne de front vers le chemin des Dames. Donc Vic-sur-Aisne, pardon, c'est une petite commune qui est connue pour avoir été un village d'arrière-front. Et pour avoir connu la guerre au quotidien avec comme je disais tout à l'heure les troupes des soldats qui passaient par ce village, les hôpitaux militaires, etc. Mais en tout cas, on vous encourage à visiter Vic-sur-Aisne et de profiter de cette balade également pour découvrir Anne Morgan, puisque Anne Morgan, c'est une Américaine qui a été une pionnière de l'humanitaire et qui a fondé le CARD en 1917, qui était destiné vraiment à venir en aide aux civils de la région. Et elle est passée par Vic-sur-Aisne. Donc téléchargez l'application, ça vous apportera, ça vous donnera quelques informations sur cette personne. Et je trouve ça important parce que c'est une figure féminine de la Grande Guerre aussi et on ne parle pas souvent... On parle peut-être un peu moins souvent de la place des femmes, mais elle a joué un grand rôle sur le territoire.
C'est vrai que les Américains ont été assez présents, notamment pour organiser, pour créer des bibliothèques ou ce genre de choses pendant la guerre, notamment des femmes qui venaient sur notre territoire. Je crois que c'est le musée de Blérancourt qui en parle un petit peu.
Oui, le musée de Blérancourt, exactement. C'est
qui en parle un petit peu, qui en parle beaucoup, parce que c'est leur thématique, les Américains.
C'est le musée franco-américain. Donc, nous, pareil, c'est pas un musée qui est sur notre territoire, mais par contre, on travaille en étroite collaboration avec eux. Et je pense notamment à un événement qu'on avait organisé, enfin que la Mâche Montoise avait organisé. Donc la Mâche Montoise, c'est l'association qui gère les carrières de Montigny. L'année dernière, donc on commémorait l'année 1917. Donc l'année 1917, c'est l'entrée des Américains en guerre. Et l'entrée des Américains en guerre veut dire aussi l'arrivée du jazz en France. Et donc, on s'est dit que c'était une thématique intéressante à aborder. Et donc, la Mèche Montoise a organisé un concert de jazz dans les carrières de Montigny. Et voilà, quand cet événement était organisé, bah, voilà, moi, j'étais en collab. Enfin, j'ai beaucoup discuté avec le personnel du musée de Blérancourt pour pouvoir en discuter, puisque eux, le jour même, justement, ils réouvraient leur musée qui était fermé depuis plusieurs années à cause de travaux.
Dans la Tichois, également à Nomsal, il y a l'abri du Comte Spritz.
L'abri du Grand Prince.
Donc c'est quoi, c'est un poste de commandement allemand?
Voilà, alors ça c'est un site phare du musée territoire également. Donc Nomsal...
C'est un site assez récent, puisqu'il y a une dizaine d'années que les gens ont pris conscience un peu de l'intérêt de ce poste de commandement et ont commencé à la rénover, enfin à retirer les herbes, etc.
Oui, alors en fait, pareil, on doit vraiment le travail de réhabilitation de ce site à une association qui s'appelle l'APRAC, l'Association pour la Rénovation de l'Abri du Crown Prince. Et donc cette association œuvre pour la préservation de ce site et pour le rendre accessible à la visite. Donc en fait, Nomsal se situait vraiment sur l'immédiat arrière-front allemand. Donc les Allemands occupaient ce territoire et en fait ils ont construit un magnifique poste de commandement qui est assez impressionnant à visiter puisque vous allez pouvoir trouver des chambres, une salle à manger, une véranda, etc. Donc on voit aussi à quel point ils étaient bien organisés, les Allemands. C'est un site qui est inscrit sur la liste des monuments historiques et je vous encourage vraiment à aller voir cet endroit. Donc on l'appelle l'abri du Crown Prince puisque le Crown Prince de Bavière y aurait séjourné en fait pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, pareil, si vous voulez faire une visite, il faut contacter la PRAC ou l'Office de tourisme Pierre Font Lisière de l'Oise.
Du coup, conditionnel, parce que c'est pas sûr qu'il y ait séjourné ou...
Alors, le Crown Prince, ouais. Oui, bah, on dit que. Après, voilà, on peut... Je crois que c'est pas avéré, mais c'est... Il y a sûrement passé, mais après, il n'y est peut-être pas resté très très longtemps.
Il y a quelque chose de très intéressant, si vous voulez aller faire un tour sur le site de l'association aprac.asso-web.com, il y a en fait tous les travaux qu'ils ont pu entreprendre depuis l'année 2000, je crois que ça va jusqu'à 2011, où on voit au fur et à mesure l'évolution un peu du terrain, quand ils ont commencé à dégager certaines parties de ce bâtiment, donc c'est assez intéressant. Donc allez y faire un tour si vous voulez, on mettra également les infos sur le site internet.
Et j'en profite juste parce que justement la PRAC organise le 18 et 19 août un événement qui s'intitule Nomsal libéré, donc qui commémore la libération de Nomsal en août 18. Donc il va y avoir des expositions sur les combats de l'été 1918, des reconstitutions militaires et bien sûr des visites guidées de l'abri du Comte Prince. Donc ça vous permettra de voir le site.
On est presque à la fin de cette émission. On va parler un petit peu de l'événement spectacle musical Guerre et Cerise qui va se dérouler à Noyon. Ça parle de quoi ce... Alors, on connaît du coup la fête des cerises et des fruits rouges à Noyon, mais pourquoi Guerre et Cerise?
Ah, vous en saurez plus le 20 octobre. Non, je rigole. On s'est inspiré d'un poème qui a été rédigé par une habitante de Noyon. Voilà, qui a écrit un très beau poème qui portait ce nom-là. Donc, comme je vous ai dit, dans le Noyonnais, pour réaliser le spectacle, on a vraiment travaillé en collaboration avec les habitants du Noyonnais. Donc, il y a eu plusieurs, en fait... des lieux de rencontre, des moments tout au long de l'année où en fait les habitants de Noyon pouvaient venir à notre rencontre pour exposer un souvenir, un témoignage, venir avec un objet, une chanson, soit qu'ils avaient hérité de leur famille, soit qu'ils avaient eux-mêmes composé. Et on s'inspire donc de l'histoire, des témoignages, mais également des talents artistiques, puisque c'est un spectacle donc, qui va être réalisé en collaboration avec le conservatoire et des harmonies du territoire. Donc là, ça va se dérouler donc, le 20 octobre à partir de 20h. Ça va être un grand spectacle qui sera sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc, on va avoir des belles projections d'images sur la façade de l'Hôtel de Ville ainsi que sur les arbres qui l'entourent. Et l'idée... Donc voilà, ça va être de rappeler aussi les épisodes charnières qui ont marqué le Noyonnais. Et ce spectacle vraiment se base sur les témoignages donc des habitants, mais aussi des habitants actuels, mais aussi des personnalités qui ont marqué le Noyonnais, comme le maire Ernest Noël. On a aussi hérité d'un carnet de guerre d'une infirmière qui a relaté vraiment le quotidien de l'occupation du Noyonnais. Donc vous allez pouvoir replonger dans l'histoire de la Grande Guerre à Noyon.
Si des auditeurs qui nous écoutent ont également ce genre de choses, des petits carnets, des lettres écrites de leurs arrière-grands-parents, à qui on peut les remettre pour qu'ils soient conservés et peut-être utilisé dans le cadre des recherches historiques?
Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est me contacter. Donc, au Musée Territoire 14-18, il y a une page contact. Et moi, comme ça, je vais pouvoir ensuite les diriger vers une association qui pourrait être intéressée, une société historique, etc. etc. Et en tout cas, pour revenir à Noyon, on a également besoin de bénévoles, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous souhaitez nous donner un petit coup de main.
C'est vrai, quand vous videz vos caves, vos greniers, surtout ne jetez rien, notamment les coupures de presse, les papiers, ce genre de choses, c'est toujours intéressant pour quelqu'un, et notamment par exemple si vous voulez les remettre directement aux archives départementales, c'est possible, ils font des collectes régulièrement, mais c'est vrai qu'il faut garder un petit peu tous ces documents pour avoir au moins une trace écrite de ce qui s'est passé sur notre territoire. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Les grands temps forts, qu'on se donne rendez-vous quand du coup?
Alors, on se donne rendez-vous, faut surtout pas oublier le 22 juillet à Villers-Cotterêts pour la Tour Mongin, le 8 septembre, Plessier de Roy, les Sacrifiés de l'Ombre à la Lumière, et le 20 octobre à Noyon pour Guerre et Cerise. Après, je vais vous donner quelques dates pour l'été, parce que vous aurez peut-être un petit peu plus de temps. Donc le 18 juillet et 22 août, il y a des visites guidées nocturnes donc, sur les pas de nos soldats qui se dérouleront à Tracy. Ça vous permettra notamment de voir la carrière de la maison du garde. Le 18 et 19 août, Namsel libéré, donc on a déjà parlé de l'événement à ne pas oublier. Le jeudi 23 août, on va avoir le bateau Daphné qui sera amarré à Longueuil-en-Aile. Il y aura une exposition qui s'intitule « Les mariniers pendant la Grande Guerre ». Donc là, ils seront amarrés juste de 10h à 20h en une journée, donc il ne faut pas manquer l'événement. Et à Thiécourt, les 25 et 26 août, il y a un week-end du souvenir intitulé « Thiécourt sur les pas de la délivrance » qui marquera également la libération de ce village, avec beaucoup d'activités qui seront proposées au grand public. N'oubliez pas également qu'il y a de belles expositions à aller voir. Il y a une exposition durant l'été, au château de Pierrefonds, il y a une exposition sur les graffitis de la Grande Guerre. Vous avez une exposition sur Bouchard et Noyon en ruine à Noyon. Et puis, je vous parlais de la nouvelle exposition permanente du château de Montgobert. C'est l'été, on a un peu plus de temps. C'est peut-être l'occasion d'y faire un petit tour.
Si vous avez pris l'émission en cours de route, retrouvez-la évidemment sur internet www.graphite.net pour le podcast qui est disponible 15 jours en téléchargement. Ensuite, il faudra aller faire un tour du côté de Mixcloud. Sinon, toutes les informations également sur internet www.musée-territoire-1418.fr et on mettra également tout ça sur la page Facebook. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.